chers amis, bonsoir. Il y a aujourd'hui de quoi relever la tête, de quoi être fier. Nous nous sommes tous ici battus pour que le rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public ne soit pas enterré, mais au contraire porté à la connaissance du public, ce qui sera fait dès le 4 mai prochain. Une seule chose pouvait empêcher cette bombe d'exploser. Ceux qui ont suivi les interrogatoires me comprendront pourquoi j'emploie ce terme de bombe. Eh bien, la seule chose qui pouvait l'empêcher, c'est le vote négatif par les membres de la commission. J'avais parié la veille, j'avais parié que ça passerait à 2 voix, j'avais dit 17 contre 15. Et en fait, j'avais oublié qu'il pouvait y avoir des abstentions. Donc finalement, c'est passé à 2 voix, mais à 12 contre 10. Voilà. Alors, 2 motifs de fierté. D'abord, on atteint ainsi la caste dans le cœur de son réacteur. L'argent. Et ce qui lui permet de distiller chaque jour son venin, l'argent et le mode de recrutement, bien sûr. Ce qui lui permet de distiller chaque jour son venin avec des moyens financiers illimités et des personnages qui sont tout à fait acquis à la même idéologie. Et deuxièmement, eh bien, on a clairement vu ce fameux clivage droite-gauche que tout le monde s'accorde à nier, mais qui, comme le démontre mon livre « La France Colin Maillard », existe bel et bien. Alors nous avons eu tous les frontistes, je dis frontistes parce que c'est plus rapide que rassemblistes en fait, nationaux, tous les frontistes, tous les ciotistes, quelques égarés LR ou Horizon qui ne savent plus où ils habitent, mais grâce leur soit rendu, qui ont choisi pour une fois le camp résolument anti-gauche. Alors ils ont bien fait, car en dehors de cette idée de gauche-droite, eh bien, c'eût été tout de même terrible qu'ils n'agissent pas contre l'injustice, qu'ils n'agissent pas contre le détournement de ce qui était censé être un service public et qui, par idéologie, eh bien, était devenu le service de quelques-uns seulement. Alors, dans le studio, je reprendrai après ce petit édito, mais je voulais tout de même pousser ce cri de joie, car ce n'est pas souvent. Alors, j'ai donc dans le studio mon collègue et néanmoins ami, comme on dit à la fac de droit, Philippe Pichot-Bravard. Merci d'être là.
Bonjour Catherine Rouvier, un grand merci de me recevoir à votre antenne.
Alors, vous, d'habitude, c'est vous qui interviewez, puisque vous avez, comme ceux qui connaissent cette radio le savent, vous avez une émission désormais le vendredi soir.
Oui.
Qui est votre libre journal et qui, je pense, doit porter sur pas mal de choses juridiques. Mais pas seulement, peut-être.
La dernière émission portait sur les libertés locales.
Ah, voilà.
Au péril de la volonté de l'État, avec 2 historiens du droit, Jean-Luc Coronel de Boissaison et Raphaël Fournier.
Voilà. Donc, alors, nous ferons aussi du droit aujourd'hui, mais pas tout à fait de la même manière approfondie dont vous le faites. Donc vous enseignez 2 matières qui me sont chères, l'histoire du droit et l'histoire des idées politiques. Et étant moi-même dans la section droit public, je n'avais pas accès directement au cours de l'histoire des idées qui était donc réservé aux historiens du droit. Mais néanmoins, ayant enseigné la sociologie politique, eh bien, j'ai pu y introduire quelques idées politiques pour le grand plaisir de mes étudiants. Et j'ai enseigné aussi, alors ce qui faisait partie du droit public, la théorie du droit, qui est un peu technique, un peu plus technique, mais pas tellement différent, puisque c'est très historique, la théorie du droit, on ne peut pas faire autrement, et j'ai eu grand plaisir à faire ces cours. Alors, vous avez écrit un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « L'homme transformé, but des révolutions totalitaires ». Et c'est paru chez Via Romana, et c'est paru récemment, c'est quand
Oui, il y a quelques mois.
Alors, voilà, en mai 2025, qui reflète bien donc les prétentions de nos actuels dirigeants à changer l'homme, et par lui changer la société tout entière, tant qu'à faire. Alors, vous avez écrit également sur le droit naturel, qui est notre bébé chéri, le droit naturel, celui qui est malmené, qui est jeté par les fenêtres, qu'on laisse hurler dans son coin. Et vous avez également Vous avez un petit ouvrage que vous m'avez fait le plaisir de m'apporter, L'amitié dans la pensée politique, qui est donc dans la collection Critères des éditions...
Aura Decima.
Ah, c'est un A, je me demandais. Aura Decima.
Aura
plus
Decima.
En latin, évidemment.
Voilà. Oui. Voilà. Qui est une collection qui est proche du journal L'Homme Nouveau.
Très bien. Très, très à gauche, comme on sait.
Terriblement.
C'est une plaisanterie, chers auditeurs. J'hésite maintenant à faire des plaisanteries, parce que quelquefois, c'est pris pour argent comptant. Donc, c'était une plaisanterie. Donc, ce petit livre donc, est dédié au professeur Xavier Martin.
Et... Oui, parce qu'à l'origine, j'avais ouvert ce dossier de l'amitié dans la pensée politique, qui est un dossier qui m'intéressait beaucoup, le thème de l'amitié
et
de
oui,
manière
la filia
générale. Et j'avais préparé un article que je destinais au mélange Martin. Et les mélanges Martin, il n'en était pas question à ce moment-là. Et cet article a attendu patiemment pendant plusieurs années, jusqu'au jour où un collègue a pris en main les mélanges en l'honneur de Xavier Martin. Et donc, j'ai proposé cet article qui y a été publié. Et il y a maintenant quelques mois... Joël Audebert est entré en relation avec moi pour me demander de reprendre ce dossier et de l'étoffer pour intégrer un ouvrage dans cette nouvelle collection consacrée à des questions fondamentales.
Mais oui, Joël Audebert, que moi j'ai connu lorsque j'ai enseigné à l'IRCOM d'Angers, enfin à la partie philosophique, je ne sais plus quel était son nom.
L'Institut Albert Le Grand.
Voilà,
l'Institut Albert Le Grand. Nous sommes croisés également.
C'est vrai, voilà. Et ma deuxième invitée, eh bien, nous l'aurons à distance, c'est Diane de Bourguedon, conseillère en stratégie et communication, qui vient de publier pour sa part un livre intitulé « Les indésirables » et sous-titré « Prolophobie ». Voilà, chers auditeurs, vous pouvez ajouter ça à toutes les phobies ambiantes. Une de plus. Et c'est paru, bien sûr, chez Fayard. Where else? Fayard, dont je vais vous parler dans la suite de mon petit édito. Et donc, c'est sorti en mars. Et donc, nous ne sommes pas en retard pour en parler avec elle tout à l'heure. Donc, chers amis, j'ai donc poussé ce cri de joie concernant ce rapport, car ça me paraît très important. Je pense que il y a les paroles, nous les manions le mieux possible pour notre combat depuis 20, 30, 40 ans, ça dépend de nos âges, mais les actes sont très importants, et ça c'est un acte, et c'est un acte qui a une portée à la fois juridique, à la fois politique, extrêmement importante. Je ne pense pas qu'on ait réussi jusqu'ici à faire ce genre de choses, donc c'est important. Alors, sinon, le mot du jour, c'est glaçant. J'ai vu ça dans des articles qui, a priori, n'appelaient pas ce terme. Par exemple, j'ai vu que c'était glaçant de voir Lénine à la fin de sa vie dans un fauteuil roulant.
Ah, c'est vrai, c'est glaçant. Moi, j'aurais trouvé plutôt glaçant le sort que Lénine réservait aux opposants à la révolution bolchevique, qui étaient très nombreux. J'ai mauvais esprit et je suis une âme sensible.
C'est glaçant de voir Donald Trump et Léon XIV ne pas être d'accord. Bon, j'aurais pris un autre adjectif, mais ça fait rien, ça peut être glaçant après tout. Le prix du fioul, c'est glaçant, et ça c'est vrai au sens propre, on gèle par ce froid printemps. Alors, pour le Huffington Post, qui est toujours à la pointe du progressisme, ce qui est glaçant, c'est que Vincent Bolloré, infâme breton catholique, je précise, c'est ironique, bien sûr, hein, ce qui est le cas de beaucoup de bretons, d'être catholique, mais aussi riche, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de bretons, eh bien, il possède non seulement, nous dit le Huffington Post, qui est absolument scandalisé, la presse, ITL du groupe Canal+, qui est devenu CNews, Europe 1, le JDD, Capital, non seulement l'édition, et c'est là que nous allons reparler de Fayard, puisque le rachat de Hachette par Vincent Bolloré en 2023 a vu avoir pour conséquence d'intolérables exclusions, et tout récemment celle d'un membre de la dynastie Nora chez Grasset, qui a donc scandalisé les foules, la caste en tout cas, provoqué une pétition, évidemment provoqué un tas de choses et des appréciations médiatiques extrêmement négatives. Alors déjà, Fayard était passer à droite, si on peut parler comme nos adversaires, ou passer à l'extrême droite, si on peut parler comme nos adversaires. Et donc là, c'était en quelque sorte la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'était un peu triste pour M. Nora, parce qu'il venait de passer sa rémunération à plus d'un million par an, donc c'est vrai qu'il a dû être un peu déçu de ne pas pouvoir prolonger, ou même appliquer, je crois que ce n'était pas encore appliqué, cette modification. Donc, non seulement tout ça, mais Vincent Bolloré vient de lancer un manifeste destiné à nourrir la vie politique à un an de la présidentielle, je cite. Il ne choisit pas de candidat, mais il a fait élaborer par un cercle de réflexion, voilà, on le dira en français pour une fois, au joli nom d'Institut de l'Espérance, créé il y a un an avec une vingtaine de personnes qui réfléchissent, mais oui, et qui essayent de ramener du bon sens, ça c'est encore plus difficile à notre période, afin d'obtenir eh bien, de la prospérité pour la France et les Français. Voilà, prospérité, paix, voilà, on pourrait ajouter ordre, morale, etc.
Peut-être qu'on va enfin se soucier de donner aux Français les moyens de vivre bien,
voilà.
Ce qui est le but de la cité politique.
Absolument. Aristote nous a bien expliqué ça, le bonheur, hein, Eudémonia, et l'amitié, la filia, et puis la prospérité. Alors, parmi eux, il y a donc Vincent Royer, ex-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc voilà, un cateau de plus. Ce manifeste, donc, publié fin mai ou début juin, je cite, « paraît dans un monde où beaucoup pensent... » c'est Royer qui a écrit ça, « où beaucoup pensent que c'est foutu... » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est monsieur, que le chaos est toujours plus grand et qu'il est devant nous, eh bien, il faut faire un manifeste qui a vocation à porter une vision d'espérance et qui sera déclinée avec des mesures concrètes. Voilà. Donc, voilà des mots qui disent bien ce qu'ils veulent dire. Il y aura 4 thèmes. Le pouvoir d'achat, la liberté et la sécurité, ensemble. Mais pas toujours, les fragiles, les malades, les vieux, les handicapés, les gens qu'on veut bien aider à mourir, mais qu'on veut bien aider à vivre aussi, voilà. Donc le bonheur, l'harmonie, le démonial, notamment les jeunes, préoccupation des jeunes, et notamment de l'école. Et là, le Huffington Post a noté, oh, mon Dieu, lever du drapeau à l'école, uniforme à l'école, mon Dieu, mais quelle horreur. Je plaisante, bien sûr.
Peut-être même qu'il serait question d'apprendre à lire aux enfants de leur apprendre à écrire.
Alors, peut-être. C'est peut-être aussi dans ce manifeste.
Ça faciliterait mes corrections de copie à l'université.
Alors, nous avons aussi dans ce groupe Jean-Christophe Thierry, PDG du groupe Hachette, justement, ce qui explique. Guillaume Zeller, journaliste qui avait été directeur de plusieurs chaînes de télé. Stanislas de Benzmann, co-président d'une boîte de conseil en technologie, c'est très utile maintenant, et Chantal Barry, productrice de télévision et de cinéma, qui a commencé l'œuvre de Bolloré avec lui il y a déjà une vingtaine d'années. Voilà. Alors il sera bien puni, Monsieur Vincent Bolloré. Monsieur Dominique Galouzeau de Villepin s'opposera à toute réédition par Grasset de son livre « Mémoire de paix pour temps de guerre ». Ce livre qui pourtant décore chaque table des mannequins influenceuses séduites par sa crinière de lion et son bel appartement de l'avenue Foch.
On a l'impression que M. de Villepin estime avoir écrit les mémoires d'outre-tombe.
Alors ça c'est encore plus vache. Voilà, s'il nous écoute... Dominique, si vous nous écoutez, nous sommes également très admirateurs de votre crinière de lion et de vos émissions non politiques. Moi, j'aime beaucoup, c'est lorsqu'il nous parle de littérature, il est tout à fait... Mais comment dire, politique, voilà, il y a eu ce moment de gloire où vous avez refusé de participer à cette guerre d'Irak. Mais alors, depuis, bon, enfin bref, nous verrons ça au moment de la présidentielle, ce qui ne saurait tarder, puisque les candidatures, on a déjà une trentaine de candidatures quand même, hein. Pour la présidentielle, voilà. Mais heureusement, beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. Alors, ce qui est glaçant aussi, eh bien, c'est que, vous savez, demain, après-demain, c'est le 1er mai. Le 1er mai, c'est le jour où le Parti communiste français, depuis des générations et des générations, cueille le muguet et le vent le long des routes, sur les places. Le méchant capital a décidé que ce 1er mai, les fleuristes pourraient être ouverts. Donc c'est vraiment une concurrence déloyale, et je pense que si Monsieur Marchais était toujours là, il dirait c'est un scandale. Voilà. Une suggestion. Là, on touche un petit peu déjà à l'intervention de ma seconde invitée. Une suggestion pour notre président, parce que notre président parle beaucoup, vous savez, il parle de plus en plus, ça va être pendant encore un an ou presque. Il a dit donc que ceux qui étaient fâchés avec l'Algérie, ou qui envisageaient, qui n'aimaient pas l'Algérie, étaient des maboules. Voilà, nouveau. Alors, c'est un vocabulaire qui sent la cour d'école des années heureuses. Donc, voilà, ce sont des maboules. Eh bien, moi, je pense que il devrait, puisqu'on en est là, il devrait faire ce qu'a fait le roi Charles, enfin, il devrait faire pour ses successeurs maintenant, espérons en tout cas, mais ce que le roi Charles vient de faire pour les États-Unis, fêter ensemble le jour de l'indépendance. Je pense qu'au point où il en est, ce serait peut-être quelque chose de tout à fait convenable à ses yeux, voilà. Mais on ne s'est pas tout à fait séparés de la même façon, et c'était il y a un peu moins longtemps. Car à ce propos, donc le souverain anglais a apporté à Washington le pur produit de anglais qui soit, c'est-à-dire l'humour. Trump avait dit en janvier que sans les Américains, les Européens parleraient allemand. Eh bien, Charles a dit hier à Washington, sans les Britanniques, les Américains parleraient français.
Quel dommage.
Mais oui, et c'est triste, et tristement vrai, chers amis, car la Louisiane, appelée ainsi à l'honneur du roi de France, Louis, n'était pas, comme aujourd'hui, une charmante province ensoleillée du sud des États-Unis, c'était bien la moitié des États-Unis. J'ai gagné mon premier concours de poésie à l'école sur ce thème de la Louisiane, la perte de la Louisiane. Oui, j'avais 12 ans, et bien la valeur patriotique n'attend pas le nombre des années. Alors... Voilà, c'était juste pour vous égayer un petit peu par rapport à l'actualité qui quelquefois peut être satisfaisante et quelquefois drôle, même si elle est triste. Alors, nous allons donc aborder ce sujet de cette transformation actuelle voulue par l'homme, très clairement d'ailleurs décrite dans le livre d'Emmanuel Macron Révolution, que vous n'avez peut-être pas lu, mais que j'ai feuilleté, parce que justement, dans mon propre livre, La France Colin Maillard, j'explique d'où tire Macron, d'où il tire cette idée d'un homme qui ne peut plus être homme tel qu'il a été jusqu'ici depuis des millions d'années, à cause de la technologie. Vous voyez, c'est quand même... Alors, je vais vous demander à vous d'abord comment vous est venue l'idée de ce titre, parce que c'est un titre qui est vraiment excellent, et quelle est la part que vous faites entre le droit et la politique, enfin, la révolution, puisque c'est sous-titré le but des révolutions.
Alors, l'homme transformé est une réflexion sur le phénomène totalitaire, qui s'inscrit dans le prolongement d'un ouvrage que j'avais publié il y a 10 ans sur la Révolution française.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, désolé.
C'est un petit peu le deuxième volume. Mmh. Le deuxième volume, la Révolution telle qu'elle se déploie après les événements révolutionnaires, puisque les observateurs les plus perspicaces depuis 2 siècles ont souligné que la Révolution n'était pas terminée. Elle continue, et elle continue à se déployer, à atteindre des régions qui touchent l'homme de plus en plus près, qui s'emparent de lui, qui s'emparent de son intimité, qui prétendent exercer sur lui une emprise totale. Or, la révolution se caractérise comme idéologique. Elle a eu pour ambition de faire table rase du passé pour fonder un monde nouveau et créer un homme nouveau qui soit adapté à ce monde nouveau, le citoyen vertueux, entièrement dévoué à la République, à la patrie révolutionnaire, à la Révolution, qui adhère aux valeurs du contrat social et dont le dévouement peut aller jusqu'au sacrifice. Je renvoie ici au discours prononcé par Robespierre en 1794, le fameux discours sur la terreur et la vertu, prolongé par le discours prononcé 3 mois plus tard à propos de la reconnaissance du culte de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Bien. Et m'intéressant à cette question du totalitarisme, il m'est apparu que par-delà la grande richesse de ce sujet, la multiplicité des critères qui servent à le définir, ce qui est le cœur nucléaire des expériences totalitaires, leur point commun, leur but ultime est de s'emparer de l'homme pour faire naître un homme nouveau, pour régénérer, donner naissance à un homme nouveau. C'est le point que l'on retrouve dans toutes les expériences totalitaires. La Révolution française en a été la matrice. La Révolution bolchevique a voulu donner naissance à un homme nouveau, le militant révolutionnaire qui avait été décrit par Tchernychevski dans Que faire, par Netchaïev dans Le catéchisme du révolutionnaire, le premier de ses ouvrages, Que faire, ayant exercé une très grande influence sur la pensée de Lénine. Lénine a lui-même consacré...
Écrit Que faire, d'ailleurs, après.
un ouvrage intitulé Que faire. Et il soulignait que cet ouvrage, lu quand il avait 20 ans, l'avait profondément marqué. Cet ouvrage racontant l'histoire d'un jeune aristocrate qui est converti à l'idéologie matérialiste, et ce jeune aristocrate converti à l'idéologie matérialiste, qui dès lors se consacre entièrement à la Révolution, il sacrifie tout pour régénérer les autres, pour les convertir à l'idéologie matérialiste. Ben, ce jeune aristocrate, c'est lui. Il s'est reconnu en lui. Il s'est reconnu en lui. Et puis cette idée de l'homme nouveau, on la retrouve dans l'expérience national-socialiste. Et j'aime parler de national-socialisme et non pas de nazisme, pour bien rappeler ce que veut dire nazisme. C'est un socialisme.
Absolument.
Un socialisme national, racialiste, raciste.
Vous savez que, si je puis me permettre de vous interrompre 2 minutes, que le fils de Thomas Mann, qui écrivait à son père et qui donc a assisté à l'arrivée d'Hitler et aux changements progressifs qui se produisent, était fou de joie. Il a écrit à son père « Enfin, le socialisme a gagné ». C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où véritablement on a pensé, voilà, le mot national n'avait peut-être pas été pris dans toute son acception.
Oui, et assez récemment, Frédéric Rouvillois, dans Crime et Utopie, a remarquablement mis en valeur cette dimension utopique et socialiste qui animait le national-socialisme et ne l'animait pas de manière accessoire, mais occupait dans le discours hitlérien une place importante. Et puis, cet homme nouveau, nous le retrouvons sous une autre forme à notre époque. À notre époque, parce que le soubassement idéologique est pour une part identique. C'est-à-dire que les expériences totalitaires puisent leurs ingrédients dans la modernité philosophique, dans le nominalisme à l'origine, dans une anthropologie matérialiste, laquelle permet de concevoir une manipulation et une transformation de l'homme dans une approche scientiste de la connaissance qui conduit à une prétention à l'infaillibilité scientifique. Et puis d'autre part, dans les théories du contrat social, et notamment, et plus particulièrement, dans la version qu'en a donnée Jean-Jacques Rousseau, qui est la version la plus radicale, une conception de la société qui affirme qu'il n'existe dans la nature que des individus et que tout le reste est le fruit d'un accord de volonté. Tout le reste exprime la volonté des co-contractants, la volonté générale, et par conséquent, la société elle-même, les institutions, le droit, tout découle de l'expression de la volonté. Rien n'existe en dehors de cette volonté, tout existe par cette volonté, et ce qui engendre la tentation pour l'État de s'emparer de toute la réalité sociale, de tout ce qui intéresse l'homme, de l'homme lui-même, Rousseau ayant lui-même théorisé dans le contrat social la nécessité de transformer l'homme pour le rendre, lui que Rousseau lui-même définit comme un tout parfait et solitaire, le rendre dépendant du tout, d'un tout dont il tiendrait sa vie et son être, ce qui va tout de même très très loin.
Alors oui, c'est curieux parce que le positivisme juridique d'aujourd'hui, enfin disons depuis une trentaine d'années, en réalité en France, il a un petit peu démarré un petit peu avant en Autriche, mais ce positivisme sert admirablement cette pensée que vous venez de décrire de quelqu'un qui n'était pas juriste, donc n'avait pas pu envisager les suites éventuelles, sauf pour l'Assemblée, puisque la fameuse volonté générale, effectivement, découle de ses écrits. Mais c'est tout de même assez extraordinaire de voir que ce soit Charles Eisenman, que ce soit Michel Tropper, que ce soit la lignée des positivistes, eh bien, pour eux, donc, est-ce qu'on peut dire que justement le droit n'est pas comme pour Platon la beauté ou l'amitié, c'est-à-dire existe en tant que tel dans un ailleurs qui ne nous est pas directement accessible, mais que c'est le fruit d'une volonté. Je pense que vous avez tout à fait bien fait d'insister sur ce point, parce que dès le moment où le droit est le produit d'une volonté, sans référence à un absolu, quel qu'il soit, eh bien, il est le fruit, et c'est d'ailleurs le résultat de ce positivisme, et les auteurs eux-mêmes en ont été des victimes, d'ailleurs, parce que le fait de dire que c'est ce qu'élabore une entité du moment qu'elle est légitime, c'est-à-dire du moment qu'elle a été élue, ou qu'il a été élu, si on pense, par exemple, à Hitler et au national-socialisme, dès le moment où il y a une légitimité, peu importe le contenu. C'est ça qui est terrible. Et finalement, des gens comme Kelsen ont été victimes de ça, précisément. Ont été victimes de ce droit qui est élaboré en dehors de toute référence morale et qui n'interdit pas, finalement, d'aller au-delà de cette idée que la loi est pour tous, mais justement va faire des catégories de population auxquelles vont s'appliquer des droits différents.
En fait, depuis l'Antiquité grecque, nous avons deux conceptions du droit qui s'opposent radicalement. Et cette opposition, elle a été mise en scène par Sophocle dans Antigone. Antigone et Créon. Pour Antigone, la loi est juste dès lors qu'elle... La loi est légitime dès lors qu'elle respecte des règles supérieures découlant des dieux, des règles découlant de l'ordre naturel. La loi est légitime dès lors qu'elle est juste. Et la loi, le droit se définit par rapport à sa finalité, la recherche de ce qui est juste. Et alors que pour Créon, la loi est nécessairement légitime. La loi exprime la volonté de celui ou de ceux qui exercent le pouvoir, quelle que soit la forme du gouvernement. Et dès lors que cette volonté s'est exprimée dans les formes constitutionnelles établies, cette volonté s'impose et peu importe la finalité. Et donc la question centrale est effectivement la question de savoir s'il y a une finalité d'une part et liée à la question de la finalité, la question de la nature. Et donc le respect d'un ordre naturel qui s'impose à la volonté des hommes. Et ces deux conceptions s'opposaient déjà à Athènes, opposant Socrate et les sophistes. Ces deux conceptions, nous les retrouvons à la fin du Moyen-Âge dans l'opposition entre saint Thomas et Guillaume d'Ockham. Et cette opposition, elle marque toute la réflexion juridique depuis le XVIIe siècle, opposant ceux qui reconnaissent l'autorité du droit naturel et ceux qui définissent le droit comme la seule expression de la volonté de ceux qui exercent le pouvoir. Comme le fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Voilà. La loi et cette déclaration à l'article 6 marque une rupture très nette avec toute la pensée classique et toute la tradition juridique occidentale antérieure, marquée par le droit romain en particulier. Elle définit la loi par rapport à son origine, la volonté générale, et non plus par rapport à la finalité, c'est-à-dire la recherche de ce qui est juste. Ce qui bouleverse le rôle du juge, ce qui bouleverse le rôle du législateur, et ce qui tend à restreindre les sources du droit à la seule loi, expression de la volonté générale, puisque cela tend à disqualifier, et en 89, c'est bien ce à quoi on était parvenu, la coutume, la doctrine, la jurisprudence, et puis toutes ces sources du droit ont ressurgi d'une manière ou d'une autre au cours des décennies qui ont suivi, parce que la rigidité de ce système positiviste était parfaitement inadaptée.
Alors, il y a deux choses qu'on peut remarquer et déduire de ce que vous venez de nous expliquer. La première, c'est que cette volonté générale, il est apparu au fil du temps que c'était la volonté des représentants, et puis que c'était la volonté d'une majorité des représentants, et puis que finalement, dans le système qu'on connaît aujourd'hui, c'est la volonté de l'exécutif la plupart du temps, avec une constitution qui favorise l'exécutif par différents articles qui permettent de contourner les décisions populaires qui sont prises via les députés, qui permettent aussi, ou qui ne permettent pas, mais on le fait quand même, de ne pas tenir compte des décisions qui sont prises directement par le peuple dans un référendum. Donc déjà, cette volonté générale n'est pas véritablement une volonté générale. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que les limites que vous avez très bien décrites, qui au fil du temps se sont élargies, aujourd'hui sont arrivées à un point qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir atteindre. On connaît tous le vieil adage anglais, le Parlement peut tout faire sauf transformer un homme en femme. Eh bien, aujourd'hui, la loi, et je dis bien la loi, réprime celui qui refusera de donner un nom féminin à un homme trans ou inversement, et elle permet de considérer comme une femme un homme trans dans les résidences ou dans les concours. Alors, il y a tout un... Ça évolue au fil du temps, mais c'est tout de même un sujet. Et elle transforme donc des jurés, un homme en femme, des jurés. C'est-à-dire, ce qui était entrepris de facto par la chirurgie ou les hormones, et ce qui est entrepris socialement par des changements de prénom, ou etc. Mais là, ce qui est important, c'est que la loi sanctionne quiconque ne respectera pas cette transformation de l'humain qui passe d'un sexe à l'autre, ce qui est quand même quelque chose de totalement nouveau.
C'est-à-dire que la rupture avec l'ordre naturel, la rupture avec l'idée la plus élémentaire de justice qui consiste à rendre à chacun la part qui lui revient, est tellement manifeste que ceux qui veulent appuyer cette rupture sont obligés de l'imposer par la contrainte, au mépris de règles que l'on croyait pourtant bien assises dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire la libre discussion, la liberté de parole, la liberté d'expression, tout cela est balayé au profit de cette théorie du genre. L'on découvre d'une part que le programme de lutte contre les discriminations, qui est un programme d'origine européenne, qui remonte au traité d'Amsterdam, qui a été prolongé par une directive de l'an 2000, laquelle a été transposée par la loi de décembre 2004 qui instituait la HALDE, transformée en 2011 par la loi qui remplace la HALDE par le défenseur des droits, et puis ensuite l'on s'est contenté de charger la barque en ajoutant de nouvelles discriminations, de nouvelles répressions. Et l'on réalise que ce combat contre les discriminations est un puissant moyen de répression, de contrainte de la liberté d'expression, de la liberté de penser, que nos sociétés occidentales professent officiellement, et que d'autre part, parmi ces discriminations, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Il y a une hiérarchie de discrimination qui fait que, au nom de la lutte contre la discrimination sur le terrain de la théorie du genre, eh bien, il est permis de discriminer sur le terrain de la liberté de pensée ou même de la religion, en interdisant de transmettre l'enseignement dispensé par des textes religieux.
On devrait... Kelsen n'est plus là pour nous entendre, mais s'il était là, on pourrait lui dire qu'il y a quand même une ironie dans le fait que lui a voulu le droit pur de toute morale, je le cite, et qu'aujourd'hui, on a recréé une morale qui certes va empêcher la morale ancienne de continuer à s'appliquer, mais qui est quand même une morale, et qui est quand même à ce titre consternante, si on envisage le droit de manière pure, comme soi-disant il voulait l'envisager.
Il y a effectivement une nouvelle morale, et qui se distingue de l'ancienne en ce que cette nouvelle morale, elle est entièrement forgée par la volonté d'individus, d'une minorité, parce qu'il s'agit d'une minorité qui s'impose à la majorité.
La loi des rats de l'oligarchie, de toute façon.
Cette morale, elle découle de la volonté et non pas d'une religion qui s'impose aux hommes, qui est au-dessus de leur volonté. Et dès lors, elle est beaucoup plus contraignante. Et puis, d'autre part, cette morale, cette nouvelle morale, elle est évolutive. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas il y a 15 ans. Il y a 15-20 ans, on ne parlait pas de la théorie du genre. Ce n'était encore que...
C'était une maladie, en fait. C'est-à-dire, la dysphorie de genre était reconnue parmi les problèmes psychiatriques.
Et puis c'était une utopie forgée par quelques intellectuels, mais qui ne sortait pas de quelques cercles, alors qu'aujourd'hui elle est au cœur du débat public. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans 20 ans.
Vraisemblablement, oui.
Donc une morale changeante, ce qui la rend d'autant plus, de par ce caractère arbitraire, d'autant plus violente.
Oui, absolument. Et en plus, tout est permis contre l'impur, en fait. Et donc, des gens qui seraient, par exemple, tenants d'une morale traditionnelle, genre le mariage, c'est très nommé une femme, ou un enfant doit naître de manière naturelle et non pas être commandé, etc. Eh bien, ces gens-là, tout est permis contre eux.
Oui.
Par exemple, entraver simplement leur désir, pour revenir à la loi sur la fin de vie, leur désir d'empêcher quelqu'un de se suicider. Aujourd'hui, ils peuvent se retrouver en prison s'ils ont tenté, et que quelqu'un l'a su, d'empêcher quelqu'un de se suicider. Nous sommes dans... C'est extrêmement violent juridiquement, parce qu'on est en train de punir des intentions, ce qui n'était pas du tout la construction classique du droit, où il y avait les paroles, certes, les actes, mais pas les intentions.
Oui, oui.
Seules.
Oui.
C'est...
Et puis, il y a un autre aspect qui montre bien les limites de ce positivisme juridique. Vous venez d'évoquer la loi sur l'euthanasie, l'aide à mourir.
Oui.
pour lui donner son nom officiel.
Voilà.
Cette loi, si elle devait être adoptée telle qu'elle est aujourd'hui, conduirait à poursuivre des pharmaciens et à les frapper d'amendes très lourdes et de peines de prison s'ils refusaient de vendre des produits toxiques susceptibles de mettre fin de manière prématurée à l'existence d'un de leurs semblables. Alors même que la loi aujourd'hui les punit de peines de prison et d'amendes très lourdes s'ils le font. Et donc, nous allons nous retrouver dans la situation où mardi, une réalité sera blanche et jeudi, elle sera noire. Parce qu'entre les deux, une loi aura été promulguée. Quelle peut être l'autorité de la loi après une telle paninodie lorsque l'ordre juridique dit tout et son contraire du jour au lendemain, déclare blanc ce qui était noir et noir ce qui était blanc, d'un jour sur l'autre, l'autorité de la loi ne peut que s'en trouver considérablement affaiblie, l'autorité sur le prestige moral de la loi qui facilite l'obéissance à cette loi, ne peut que s'en trouver considérablement affaiblie dans l'opinion publique, et le pays encore plus ingouvernable. Et ce dont ne se rendent pas compte ceux qui nous gouvernent, c'est que ce faisant, ils affaiblissent le peu qu'il reste de leur propre autorité. Ils se frappent eux-mêmes d'un principe de mort qui ne peut qu'être fatal à ce qu'ils sont et aux fonctions qu'ils occupent. En fait, c'est une loi qui accélère la destruction de la société tout entière. Nous sommes dans une société qui est en lambeaux, le tissu social est déchiré de tous côtés, et cette loi va accélérer cette destruction alors même que le principe de toute société est sa propre conservation. Il y a là une décision qui est dont les conséquences sont beaucoup plus destructrices encore qu'on ne le souligne habituellement. Ce ne sont pas simplement les grands malades, les personnes âgées, les plus fragiles qui vont en être les premières victimes et qui vont en souffrir, ce qui est déjà considérable et ce qui est déjà très grave. C'est la société entière qui est condamnée à brève échéance et une condamnation aggravée par cette atmosphère de contrainte, par ces blessures que l'application de dispositions contraires à la nature de l'homme imprimera dans le cœur de chacun de ces hommes. En fait, nous voyons bien qu'aujourd'hui, il existe une tension dans la société française qui rend la vie collective difficile. Dans les gestes quotidiens. Et ce qui alimente cette tension, ce sont précisément toutes ces contraintes idéologiques, tous ces actes contre nature, toutes ces frustrations, toutes ces limites imposées à la liberté d'expression, afin de satisfaire aux exigences de cette nouvelle morale et qui crée un climat qui est ressenti par nos contemporains et nos compatriotes comme une violence, et une violence qui ensuite déborde quotidiennement par un climat de tension de plus en plus pesant.
Alors nous allons écouter un petit Bobino et puis nous reprendrons cette émission et nous aurons en ligne Diane de Bourguedon, que j'aperçois déjà.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Donc, oui, en plus, ce qui m'a toujours choqué dans cette histoire de positivisme juridique, alors pour les étudiants, j'allais dire, des formations professionnelles, pour les auditeurs, je voudrais préciser que nous, juristes, savons de quoi nous parlons quand nous disons cela, mais pour les gens, eh bien, le positivisme juridique, c'est la reconnaissance du droit positif. Et c'est vrai, d'ailleurs. Mais justement, on n'arrive plus à avoir la connaissance du droit positif à cause de ces évolutions permanentes qui résultent de la seule volonté humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, même sur des choses qui étaient absolument établies, on ne peut plus avoir au fond, vous avez très bien dit tout à l'heure, on ne peut plus avoir au fond de soi cette certitude sur laquelle s'appuyer. Et c'est grave, parce qu'alors du coup, on est dans le labyrinthe. Hein. Où est le fil d'Ariane? On est un petit peu perdu. Plus d'hommes, plus de femmes, plus de vie commencée dans le ventre des femmes, plus de mort naturelle. En fait, le mot naturel, d'ailleurs, hein, est très finalement très mal vu.
En fait, il y a une rupture avec le réel.
C'est ça.
L'idéologie se substitue au réel, et cette substitution de l'idéologie au réel conduit à inventer un monde complètement nouveau, un homme entièrement nouveau, en usant de moyens de contrainte, alors qu'ils sont beaucoup plus subtils que les moyens de contrainte utilisés par les Jacobins il y a 250 ans, il y a 240 ans, dans les États totalitaires du 20e siècle, mais qui n'en sont pas moins ressentis comme violents.
Bien, alors je vois que nous avons Diane de Bourguédon, ma seconde invitée. Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle nous voit?
Oui, parfaitement. Est-ce que vous m'entendez aussi?
Alors, en revanche, pour entendre, évidemment, il faut que nous mettions ces terribles engins. Voilà. Voilà, reprenez, nous n'avons pas entendu.
Bonjour à tous les deux et merci beaucoup Catherine pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien.
Oui, très bien, parfait, c'est parfait. Alors, j'avais envie de finir notre première partie qui était donc consacrée à l'œuvre de Philippe Pichot-Bravard, L'homme transformé, but des révolutions totalitaires, et de manière générale à cette querelle qui dure depuis toujours, mais qui devient aujourd'hui véritablement primordiale entre le droit naturel et ce qu'on appelle le positivisme juridique, c'est-à-dire la faculté de transformer ce droit suivant la volonté du prince. Alors, le prince change, le droit change, et puis etc.
Et transformer le droit pour transformer l'homme derrière.
En plus, et la société. Alors justement, dans le livre de Diane, je vais me permettre de citer ce qui se trouve à la page 104. J'ai trouvé que ça reflétait bien ce dont nous sommes en train de parler. À cette immense déstabilisation, donc on parle bien de ça, à cette immense déstabilisation, s'est additionnée la prolophobie systémique des élites dont vous parlez dans votre livre, dont nous allons parler bien sûr maintenant. L'État lui-même n'est plus d'aucun secours au petit peuple. Sans ancrage, sans balise, c'est un petit peu pour illustrer ce qu'on vient de dire, sans ancrage, sans balise, il tente de surnager, emporté par la tornade d'une triple insécurité matérielle, culturelle et spirituelle. C'est un petit peu ça. Dans ses vœux pour l'année 2026, le directeur du Figaro pointe la responsabilité des élites dans l'atomisation de la société au nom de grandes théories généreuses, en théorie, mais en réalité féroces pour ceux qui les subissent. Ces élites ont prétendu tout changer, alors non seulement dans la nature de l'homme, mais dans la vie des peuples, du coup, évidemment, hein. Leurs habitudes culturelles, leurs repères moraux et leurs références anthropologiques, leur alimentation, leur environnement humain et leur cadre de vie. C'était donc les vœux du Figaro d'Alexis Brézet, comme vous l'indiquez, dans une note. Je trouve que c'est assez bien vu de la part d'Alexis Brézet et ça rend bien ce climat, parce que nous en parlons en juristes et en gens qui avons l'illusion de pouvoir éventuellement décrypter pour eux ce qui se passe, mais eux, ils le ressentent comme ça. C'est des modifications de style de vie, des modifications de référence qui sont extrêmement perturbantes, qui pourraient être passionnantes et intéressantes si elles étaient sectorisées, mais lorsque c'est comme ça général, c'est vrai qu'il y a une la société empathie, comme vous vous disiez tout à l'heure. Voilà, ma chère Diane, donc vous venez d'écrire ce livre, alors vous avez peut-être entendu le début, non ? Je vous avais...
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc j'ai dit que vous êtes très très vilaine parce que vous avez publié chez Fayard. Ah, oh, Fayard, mais c'est pas possible. Grasset maintenant, Fayard, Hachette, tout ça, c'est un monsieur Bolloré. Vous savez, c'est comme le tour du domaine, le marquis de Carabas, tout ça est au marquis de Carabas. Donc, trêve de plaisanterie. vous avez donc, c'est un petit peu un cri du cœur. Hein, parce qu'on pourrait tout de suite vous dire, si on était méchant, mais enfin, Madame de Bourguedon, de quoi vous mêlez ? Est-ce que vraiment ce petit peuple vous tient à cœur ? Eh bien, quand on lit votre livre, on a tout à fait l'impression que oui.
Écoutez, bien sûr, je ne vais pas revendiquer une seule seconde de ne pas faire partie des élites que je vilipende. Hein. Je suis clairement au cœur du réacteur et c'est pour ça que je me suis permis d'analyser leur ethos hein, finalement. Donc je ne parle pas tellement finalement dans mon livre de ce que peuvent ressentir les classes populaires et les classes moyennes en étant constamment méprisées et moquées, mais je me place plus du point de vue des élites et plus généralement du système, puisqu'il me semble aujourd'hui que le mépris de classe qui éprouvé de la part des élites à l'encontre du reste des Français est devenu véritablement systémique. C'est-à-dire qu'on le retrouve de manière très généralisée au niveau non seulement des institutions, des instances de pouvoir, mais également des grandes entreprises, des publicitaires, du monde audiovisuel et du monde culturel. Et en réalité, pour raconter une petite anecdote sur la raison pour laquelle j'ai eu envie de m'investir dans la cause du peuple, on pourrait dire, c'est que au moment des gilets jaunes, assez rapidement, je me suis sentie assez émue, touchée et solidaire, en tout cas, des doléances de ce peuple qui allait se rassembler sur les ronds-points. Et j'ai eu une sympathie spontanée, en fait, qui ne m'a été dictée par personne, mais elle est venue comme ça. Et je pensais un peu naïvement que tous les gens de mon entourage et tous les gens que je fréquentais allaient avoir le même point de vue. Et Dieu merci, il y en avait beaucoup. Mais un jour, je prends la défense des Gilets jaunes et j'écris un texte sur les réseaux sociaux où j'ai pas mal d'abonnés. Et j'écris un texte où je désigne précisément Macron comme un des artisans principaux de la situation d'abandon et de déréliction dans laquelle se trouve aujourd'hui une grande part des Français. Et en fait, je me fais littéralement tomber dessus à bras raccourcis par une dame que je connais depuis que je suis enfant et avec qui j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de vacances, et qui me dit « Mais Diane, que faites-vous ? Vous jetez l'huile sur le feu ?» Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup affectée, parce que lorsque vous connaissez des personnes depuis longtemps et vous pensez que vous appréciez ces personnes-là, je me suis dit, mais en fait, là, il y a vraiment deux camps, en fait. Hein. Il y a les personnes au sein des élites, en tout cas, il y a les personnes qui sont sensibles à la souffrance et aux préoccupations d'une grande partie des Français, et il y a ceux qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de cela, donc ça c'était donc pendant les Gilets jaunes, donc en 2018, si vous voulez, les années ont passé et ce constat que j'ai fait à ce moment-là n'a fait que s'accroître. Et d'où cette envie d'écrire ce livre qui est en effet un cri du cœur, oui.
Donc vous avez vu que notre président continue. Il a parlé récemment des maboules, c'est intéressant, les maboules qui pensent qu'il faut être fâché avec l'Algérie. Bon, peut-être que l'Algérie pourrait faire en sorte qu'on ne soit plus fâché, ce serait peut-être très très bien aussi. C'est peut-être que les maboules ne sont pas forcément où l'on pense, mais effectivement, depuis les cendants de Hollande, depuis on a vu arriver dans le vocabulaire politique des mots que, venant de la gauche, que la droite n'aurait pas osé, à la limite, hein, c'est-à-dire vraiment pour désigner des gens. Alors, il a dit aussi, Macron, il a parlé des illettrés. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'illettrés, qu'il n'y a pas, certainement que malheureusement il en reste, mais désigner comme ça toute une partie de la population, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y aurait là-dessous un mépris, et un mépris qui peut-être est une des clés de compréhension de la politique qui est suivie actuellement, qui est une politique de déni des désirs du peuple, que ce soit celui de voir un parti que la caste n'aime pas arriver au pouvoir, que ce soit le désir des peuples de ne pas suivre les directives venant de l'Union européenne, notamment pour une entrée en guerre ou pour de l'argent pour l'Ukraine, etc. On a vraiment ça se traduit par une politique. Et alors, ce qui m'a intéressé dans votre livre, par-delà donc ce sentiment que vous ressentez vis-à-vis du peuple, dont nous faisons partie d'ailleurs, même si effectivement nous aussi nous sommes en but à des choses, ça ne touche pas que une partie du peuple, mais le peuple tout entier. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous répondez en quelque sorte, sans le savoir sans doute, à un livre qu'a écrit Jean-François Copé tout récemment, puisque j'ai appris ça le 13 avril, donc ça ne doit pas être très ancien. Et ce livre, c'est « Quand les populistes trahissent le peuple ». Et donc, on a là deux visions complètement opposées, c'est-à-dire que lui, justement, prétend que ceux de l'élite qui, comme vous, soutiennent le peuple et sont sensibles à ses désirs et à ses arguments, sont des populistes, qui élisent des populistes, et que c'est ça qui fait le malheur du peuple, alors que vous soutenez que c'est le contraire, et que c'est justement parce que l'élite ne veut pas écouter les désirs du peuple, et qu'elle ne veut pas mettre au pouvoir des populistes, c'est-à-dire ceux qui sont désireux de faire la politique que demande le peuple, que c'est de leur faute à eux, à cette partie de l'élite. Donc c'est intéressant, parce qu'on a vraiment deux points de vue opposés.
Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce terme aujourd'hui de populiste, d'ailleurs je lui prédis une certaine postérité dans les prochains mois, c'est-à-dire que ça va être une nouvelle façon c'est la nouvelle insulte si vous voulez. Vous avez, on traite toujours évidemment de fasciste, de réactionnaire, et là, si vous voulez, le dictionnaire des calomnies s'est enrichi avec le mot populiste qui va être brandi à chaque fois que quelqu'un prétendra s'intéresser aux doléances de la grande majorité des Français, aux doléances du peuple, et plus exactement, à chaque fois que quelqu'un aura un discours qui viendra s'opposer au discours dominant du progressisme et de la diversité heureuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et il y avait un exemple d'ailleurs assez flagrant, qui est aussi le dernier ouvrage de Geoffroy de Laganerie, je crois qu'il s'appelle, qui a écrit un livre finalement où il indique que la démocratie n'est pas toujours souhaitable si finalement elle va contre les vents, elle se trouve contre les vents du progressisme. Donc on a l'impression que une immense majorité des élites qui forment ce pays continue à croire dans le mythe de l'hédonisme, le consumérisme, du progressisme, de la diversité heureuse. C'est un petit peu, c'est un vaste ensemble. Enfin, tout ça est assez cohérent entre eux. Et à partir du moment où on a un discours qui s'intéresse à la transmission, à la nation, alors là je vais dire un gros mot, au patriotisme, ou à l'enracinement, à la poursuite de la continuité historique, toutes ces notions-là sont axées dans le meilleur des cas de populiste et dans le pire des cas de fasciste en fait. Donc c'est, à mon avis, ça va être une nouvelle façon d'attaquer, le camp patriote, ça sera d'accuser ses membres de populistes.
Oui, c'est en vogue déjà depuis un certain temps, mais ça descend de plus en plus dans la société. Alors, dans votre livre, vous faites un petit peu au début, un recensement de tout ce qui peut nous choquer, justement, dans les mots ou les actes de ces élites. Et j'ai retenu à la page 74, vous donnez un exemple qui est très révélateur de ce qu'on vient de dire. La phrase de Macron, donc, c'est la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, c'est où il accuse ceux qui minimisent les enjeux environnementaux, donc le climat, le fameux climat, de, on cite, « pendant ce temps, brainwasher déjà, sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. C'était donc en juin 2025. Et là, c'est terrible parce qu'on voit très très bien, le peuple devrait penser au climat. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait eu des jeunes filles violées, assassinées? Franchement, de quoi il s'occupe? C'est des faits divers par rapport à cette chose extraordinaire, fabuleuse, pour laquelle la France, et en particulier lui, Emmanuel Macron, a agi de manière historique, le climat. Je trouve que c'est vraiment très, très éclairant.
En fait, le problème du peuple, c'est qu'il n'est pas dans le camp du bien.
Ben c'est ça, voilà, effectivement.
Hein, eux sont le camp du bien, ils ont tous les droits.
Exactement, et ils se permettent de donner, en fait, de faire la leçon aux personnes qui ont le culot de placer les enjeux de sécurité au premier plan devant la préservation des océans. Donc on a un président de la République qui a établi une hiérarchie de valeurs, les océans avant la sécurité des Français, et qui entend l'imposer, en plus en employant un vocabulaire de management américain, comme c'est très courant aujourd'hui dans les sièges des grandes sociétés, ce qui d'ailleurs, à mon sens, est une marque de plus d'ailleurs de mépris, puisque ce vocabulaire a l'air de dire il y a ceux qui parlent comme moi, qui utilisent à tout bout de champ les membres de la Startup Nation, qui parlent, qui cassent des mots de globiche à chaque virgule, et puis le reste des Français qui sont complètement soi-disant retardés, réfractaires et qui n'y comprennent rien.
Exactement. Alors, en lisant déjà le titre, Les Indésirables, j'ai tout de suite pensé aux Misérables. Je me suis dit que, ma chère Diane, vous ambitionniez peut-être d'être le Victor Hugo du XXIe siècle, à savoir attirer l'attention sur ce qui serait devenu des Indésirables, ce qu'on retrouve dans votre livre sous des noms divers, hein, le français de souche, le petit blanc, le beauf, etc., etc., et le plouc, d'où le sous-titre prolophobie. Alors, vous donnez des exemples, je dis ça pour nos auditeurs qui seront certainement très contents de pouvoir les retrouver dans votre livre. Les exemples, malheureusement, qui touchent la justice, c'est terrible. Je dirais que c'est peut-être le point le plus terrifiant, c'est que la justice ne soit plus au service de la justice, mais au service d'une idéologie, pas évidemment pour tous les magistrats, naturellement, mais que ce soit quand même une tendance très lourde, hein. Donc, dans votre premier chapitre, vous en parlez aussi dans le chapitre 2 qui s'intitule « Naël, petit ange, parti trop tôt ». Vous parlez également de la publicité qui va, ces derniers temps, par exemple, la publicité contre le vol qui va mettre dans l'image un méchant français blanc moustachu qui va voler. Vous décrivez très bien ça au début de votre ouvrage, c'est-à-dire cette focalisation finalement sur le coupable, hein. C'est une justice qui finalement a déjà décrété qui était coupable. Et ça, c'est très très mal ressenti par les Français, par nous tous, enfin, sauf ceux qui sont adhérents de cette idéologie.
C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ça devient assez flagrant, à un point qu'il est assez difficile de le nier, que la justice opère on a vraiment l'impression d'une justice, en fait, à géométrie variable. Donc, d'abord, depuis les années 70, je me suis amusée d'ailleurs à la détourner dans mon livre. Il y a la fameuse harangue de Baudot où Oswald Baudot incitait les futurs magistrats à pratiquer la justice de manière partielle. Donc l'impartialité était absolument, elle était niée, en fait, complètement niée. Et donc déjà dans cette harangue-là, il invitait les magistrats à être à privilégier, alors c'était l'épouse contre le mari, le voleur contre le policier. Donc il y avait déjà une tendance à vouloir un petit peu inverser, à faire une inversion accusatoire, mais s'est infiltré là-dessus, nous étant arrivés des États-Unis, le wokisme, qui a ajouté des dimensions ethnico-culturelles, religieuses et d'orientation de sexe ou de genre. Vous en parliez tout à l'heure, hein, de la théorie du genre. Ces dimensions là ont fait leur apparition. Elles n'étaient absolument pas là dans les années 70 en France, en dépit déjà d'une évolution de la justice, mais il me semble que depuis quelques années, un grand nombre de décisions de justice sont faites à l'aune d'une grille idéologique qui est celle du wokisme. Et en réalité, quand j'ai commencé, parce qu'on entend souvent parler de le laxisme judiciaire des magistrats français, mais en réalité, on a quand même le sentiment, même si c'est on n'a pas de chiffres très précis là-dessus. Et pour cause, on a le sentiment que le laxisme, il est toujours envers les mêmes, et que lorsque la justice souhaite faire preuve de fermeté, elle sait le faire. Elle sait appliquer le code pénal à la lettre.
Bien sûr.
En revanche, quand elle a face à elle des délinquants, des jeunes voyous multirécidivistes, elle fait preuve de brio pour trouver dans la besace des aménagements tout un tas de réductions de peine, ces excuses de minorité, etc. Et dont le plus flagrant peut-être m'a semblé en tout cas être l'irresponsabilité pénale qui aujourd'hui fait florès dans beaucoup de décisions de justice. Et parfois qui peut choquer, je dirais, le bon sens populaire.
Absolument, c'est devenu. Il y a autre chose aussi qui s'est rajouté, c'est l'histoire de la culture du prévenu de celui qui a, enfin, du délinquant. Voilà. Alors c'est sa culture, effectivement, c'est leur culture de violer les femmes. Pas de chance pour nous. Je veux dire, c'est totalement abusif. Alors
la dictature du relativisme.
C'est ça, c'est vrai.
Exactement. Et il y a eu d'ailleurs une décision de justice. Alors il me semble, mais je ne suis pas plus très certaine que c'était au Québec. C'est pas celle que je cite dans mon livre, mais une autre dans lequel il y a eu un. Enfin, je sais que le coupable a demandé un aménagement de sa peine, une réduction de sa peine, au motif qu'il ne possédait pas les codes. Il
c'est
possédait
ça, voilà.
Pas les codes culturels.
C'est exactement la traduction,
On y est. Enfin, je veux dire,
oui.
on assume pleinement nous ne sommes plus égaux face à la justice, mais que tout un tas de critères viennent s'inviter dans le débat, et des critères qui sont très étrangers, je dirais, à l'universalisme à la française, puisque que viennent faire des considérations ethniques, religieuses et d'orientation et de genre dans les tribunaux, elles n'ont rien à y faire. On est normalement égaux devant la loi.
Alors c'est d'autant plus paradoxal que la gauche, comme on le sait, a tendance à détester les catholiques de manière générale, sauf les cathos de gauche, il y en a quelques-uns quand même, mais en revanche, elle est tout à fait intéressée par l'islam et donc par la charia, qui est une loi, on ne peut plus, répressive. Alors là, il pourrait toujours essayer d'inventer une culture pour se justifier d'avoir fait un vol, ils auront tout de même la main coupée, en Iran, en tout cas, pas partout, mais enfin, bon, donc on est dans un paradoxe, le paradoxe qui, à mon avis, est tout simplement la caractéristique de l'idéologie. C'est-à-dire que l'idéologie, finalement, fait cohabiter, met un lien entre des choses qui sont contradictoires. Seule l'idéologie les rassemble, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, l'idéologie les rassemble, et c'est la finalité idéologique qui donne un sens à tout cela. L'objectif, c'est le succès de cette idéologie. Et donc, chaque chose trouve sa place dans ce dispositif afin d'atteindre cet objectif final qui, en l'espèce, est la destruction de la société, la civilisation traditionnelle.
C'est ça, exactement. Alors, j'ai deux questions dont peut-être l'une n'est pas une critique, mais peut-être une relativisation de ce qui est dit dans votre livre. Vous invoquez Philippe de Villiers, que vous connaissez bien, que nous connaissons bien de manière générale, qui parle de populicide, et vous parlez de paupéricide. Alors, moi, je voudrais quand même dire que le prolo, hein, dans ce que vous décrivez très bien en ce moment, qui est le rejet d'une partie de la population, c'est pas forcément le pauvre. Ça peut être aussi le riche ou le bien élevé ou le diplômé, etc., qui a ces idées baroques de vouloir, par exemple, la morale, de vouloir... je pense que c'est plus large que les pauvres, non ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, vous parliez tout à l'heure de la persistance de la distinction entre la gauche et la droite, et je vous rejoins absolument entièrement. Et on pourrait dire aussi d'ailleurs entre progressiste et populiste d'une certaine manière. Donc il est certain que ce clivage existe aujourd'hui et qu'il fait fi des considérations de classe sociale ou de CSP, évidemment. Donc vous avez dans le monde notamment culturel et plus largement médiatique tout un discours qui est très hostile à la droite. Et vous parliez tout à l'heure avec beaucoup d'ironie, effectivement de Bolloré breton catholique. Évidemment, il ne fait pas partie des couches populaires. D'ailleurs, c'est évident. Mais il me semble que dans ce contexte-là, il y a une, je dirais, un acharnement plus particulier du système entier dans sa globalité, c'est-à-dire par exemple la justice, mais également le monde, vous en parlez tout à l'heure, de la publicité dont je parle dans mon livre, le monde de la production cinématographique. C'est ce monde-là, en tout cas, il y a une communion globale de toutes les élites, qu'elles soient de droite comme de gauche, pour aller finalement cracher sur le français des classes populaires et des classes moyennes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas au sein de ces élites des tensions et que tout le monde est d'accord sur toutes les idées.
Oui,
mais en tout cas,
une partie de cette élite est considérée comme prolo mentalement parce qu'elle n'adhère pas au modernisme de l'autre.
Absolument. Absolument. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui fait figure de défouloir universel, celui sur lequel on peut cracher à longueur de journée et se moquer sans craindre de finir à la 17e chambre correctionnelle, c'est finalement le beauf, le prolo issu des classes moyennes et populaires. Il y a une sorte de convergence du mépris de classe qui est en fait ressenti, enfin en tout cas peut-être même largement inconsciemment, par toutes les élites. Et quand je parle des élites dans mon livre, j'aurais pu aussi bien employer le terme de la bourgeoisie. C'est-à-dire que c'est pas seulement la classe dirigeante et les personnes qui ont accès à la parole publique et qui exercent une influence sur les ondes radiophoniques et télévisées. C'est pas seulement ça, ce que j'appelle les élites ou la bourgeoisie. C'est plus largement les personnes qui occupent des fonctions à responsabilité, par exemple dans les grandes entreprises. C'est pas forcément une élite intellectuelle. Il y a aussi toute la bourgeoisie d'affaires, et que ce soit finalement cette bourgeoisie de droite, tout comme celle de gauche, ont en commun une forme de détestation, même si elle n'est pas toujours parfaitement consciente, du peuple français en tant que représentant des couches populaires et des couches moyennes.
Voilà, alors c'est là que nos avis divergent, mais on peut très bien avoir des avis qui divergent alors qu'ils convergent par ailleurs. Justement, pour moi, la bourgeoisie étant un terme marxiste et le schéma marxiste étant d'opposer les riches aux pauvres, en gros, je pense que la réalité actuelle, mais ça n'engage que moi, est qu'il y a une fraction, en fait, à l'intérieur des élites, comme à l'intérieur, et je préfère élite à bourgeoisie, que comme à l'intérieur des prolos, ou du moins du peuple. Mais bon, c'est une question de mots, mais c'est un sujet qu'on... Alors, je peux développer un petit peu.
Ce que votre invité souligne très bien, c'est la force du conformisme social.
Oui, ça c'est vrai. Oui.
Et de l'autocensure qui en découle.
C'est vrai, tout à fait.
Alors, en tout cas, bien évidemment, et je ne peux que aller dans votre sens, Catherine, c'est que bien évidemment, au sein de la bourgeoisie prise au sens large comme étant, on va dire, une certaine élite diplômée et avec un certain niveau de vie, bien évidemment qu'il y a dans cette élite-là des personnes qui se soucient du reste des Français. Et fort heureusement, et je pense qu'on peut dire
oui,
à certains égards
partie.
que nous en faisons partie.
Et d'ailleurs, ma chère, pas seulement la bourgeoisie, souvenez-vous que les princes sont venus voir les gilets jaunes. Les princes de Bourbon sont venus voir les gilets
absolument.
Jaunes.
Donc, évidemment, de toute façon, comme dans tous les phénomènes sociologiques, il n'y a jamais de on raisonne toujours
oui,
de manière
sûr,
un petit peu approximative et à la grosse maille. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je constate, tout à l'heure, vous avez cité les petites phrases que sortait Emmanuel Macron, les fameuses petites sorties, et puis il y a eu celle avant de Hollande, on a l'impression, j'ai fait la petite phrase dans mon livre, peut-être que le mouvement MeToo a contribué à la libération de la parole féministe. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une libération de la parole du mépris de classe. C'est-à-dire qu'autrefois, que ce soit au niveau des dirigeants politiques, mais même, je dirais, au sein des familles, des familles de la bourgeoisie, il y avait une forme de décence qui faisait que, malgré tout, le français issu des classes populaires et moyennes, ça restait son prochain. Ça restait quelqu'un pour qui on avait de la considération et pour qui on sentait une forme de solidarité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une véritable rupture qui s'est opérée entre les élites urbaines, cosmopolites, déracinées, et le reste des Français qui habitent, très schématiquement, dans la France périphérique.
Mais là, c'est l'un des fruits les plus redoutables de la déchristianisation qu'a connue notre société depuis 30 ans, ou depuis 50 ans, mais plus particulièrement depuis 30 ans. Le christianisme a disparu de l'horizon de la grande majorité de nos contemporains, et une forme de néo-paganisme s'est imposée à sa place, ce qui nuit grandement à l'équilibre social et à ce regard porté sur l'autre, qui devient de ce fait extrêmement violent.
Alors, je voudrais vous opposer encore une fois, parce que je suis là pas seulement pour dire c'est formidable, mais aussi pour dire les points sur lesquels vous opposez quelque chose que j'ai opposé, non pas directement, car je n'étais pas avec lui, mais à Renaud Camus, sur lorsqu'il vient d'écrire sur les élites, qu'elles n'existent tout simplement plus. Lui, il va beaucoup plus loin. Je pense que... Alors, Dans la périphérie, mais une grande périphérie, qui est le Perche, que vous connaissez et que je connais aussi, par exemple, lorsqu'on vit, et des gens qui étaient, comme moi, urbains, peuvent se retrouver effectivement dans une périphérie lointaine comme celle-ci, on voit que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'elles existent et nous connaissons tous des gens qui sont à la fois bien éduqués, qui ont du bien et qui suivent la morale chrétienne, c'est vrai, souvent, et qui ont de nombreux enfants, et qui, etc. Et ça existe, ça continue d'exister, et c'est pour ça que il faut, ce que nous faisons ici, c'est pour ça qu'il faut les soutenir. C'est-à-dire, vous n'allez pas jusque-là, vous ne dites pas les élites n'existent plus, mais je vous trouve un peu pessimiste, c'est-à-dire un peu justement tourner vers ce qu'est la société urbaine, un peu plus que vers la France profonde qui... Moi, je suis souvent émerveillée dans cette France profonde de voir que, justement, telle qualité qu'on croyait disparue, telle politesse qu'on croyait disparue, tel sentiment de sociabilité qu'on croyait disparue, existe. Alors, ne m'enlevez pas mes illusions tout de suite.
Ah non, mais fort heureusement d'ailleurs, sinon il y aurait de quoi désespérer. Mais si vous voulez, aujourd'hui, si on réfléchit vraiment en termes de grosse masse sociologique, vous avez 60% des Français qui habitent dans la France périphérique. Évidemment, ce n'est pas des couches socialement parfaitement homogènes. Vous avez toutes sortes de distinctions, même si le gros, c'est quand même des couches moyennes, les classes moyennes et les classes populaires. Mais vous avez aussi des personnes issues de la bourgeoisie qui habitent dans la France périphérique et qui sont peut-être d'ailleurs étant en prise directe avec le quotidien et le réel, ayant des contacts, des conversations avec des personnes des couches moyennes et populaires, sont plus à même d'ailleurs d'entendre leurs doléances et de les comprendre. Moi, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, la gentrification avancée des centres-villes, des grandes métropoles, qui a créé une bourgeoisie complètement déconnectée. C'était même pas le cas. Alors moi, je suis vraiment née à Paris, donc j'ai vu l'évolution. Quand j'étais enfant, c'était pas le cas à ce point. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté dans les années 80 de faire quitter tous les artisans, les industries du centre de Paris, de les écarter en marge du centre de Paris pour tourner Paris vers, soi-disant, la modernité, donc une économie purement de service. Ce qui fait que les personnes qui travaillent dans les secteurs... le secteur primaire, il n'y a jamais eu beaucoup d'agriculteurs au cœur de Paris. Quoique, autrefois, on voit sur des vieilles photos de Paris, on voit des personnes qui viennent, des vachers carrément, dans Paris, sur les berges de Seine.
Oui, même avec des Sartrouville, tout ça, c'était paysan, c'était...
Exactement.
Toute une couronne qui était agricultrice, en fait. Ouais.
Exactement, exactement. Mais on va dire que ça fait assez longtemps que le monde agricole n'a plus vraiment de visibilité au cœur de Paris. Mais en tout cas, jusque dans les années 80, il y avait encore de l'artisanat dans Paris et puis des ouvriers. Or, aujourd'hui, ces personnes-là ont été littéralement évacuées de manière tout à fait volontaire hein, pour des histoires de modernisation de Paris. Aidé en cela aussi par la flambée des prix de l'immobilier qui fait que il est absolument impossible aujourd'hui pour une immense partie des Français de se loger dans le centre-ville des grandes agglomérations. Et en fait, cette séparation géographique, qui est peut-être un des points de départ, elle se traduit après par une perte, vous parliez tout à l'heure de l'amitié civique, une perte de la filia, une perte du sentiment de faire partie du même peuple et de l'envie de continuer à écrire l'histoire de notre pays de main dans la main, conjointe. On a vraiment l'impression d'une déconnexion complète de cette élite, très gentrifiée, qui vit dans un entre-soi, qui est très cosmopolite, alors elle est très tournée vers l'étranger. L'autre, c'est forcément formidable, l'étranger, c'est génial, mais on est plus à l'aise à New York qu'à Limoges. Enfin, oui, je ne sais plus si c'était Raphaël Glucksmann qui avait dit une phrase un petit peu comme ça.
Oui, c'est lui, oui. Oui.
Alors, je ne sais plus si c'était les villes ou Manhattan. Il avait dit voilà, je suis plus à l'aise à Manhattan qu'à je ne sais plus où est-ce qu'il avait dit comme
oui,
ville.
Mais
c'est tout à fait ça.
Ça pourrait coexister. On peut tout à fait se sentir à l'aise à l'étranger et cependant avoir se sentir aussi faire partie du peuple français. Mais la manière dont il l'a dit, effectivement, on avait l'impression que c'était ça ou ça.
Mais même sans aller aussi loin, lorsque l'on prête l'oreille dans une certaine gauche intellectuelle progressiste, il y a un parti pris de principe pour les étrangers, mais quand il s'agit concrètement de faire un geste vis-à-vis de cette personne d'origine étrangère ou de cette personne étrangère, simplement d'aller déjeuner avec elle le midi, il n'y a plus personne.
Oui, c'est vrai que parfois les paroles sont bien au-delà.
L'opposition, là encore, entre le réel, le concret et la prise de position, la posture, l'abstrait.
Alors,
Je regarde un petit peu dans mon livre les personnes qui affectent une familiarité un petit peu exagérée avec leur livreur de sushi fraîchement arrivé, puisque d'ailleurs il a été montré que la plupart des livreurs aujourd'hui de repas étaient des clandestins. Donc, ils vont afficher une familiarité un petit peu affectée. Mais s'il s'agissait de présenter ce livreur comme étant le futur époux de leur fille, il y aurait plus grand monde pour répondre, ça, c'est certain.
Alors, dans votre donc l'heure tourne, donc nous allons bientôt clore cette émission. Et avant, je voudrais donc signaler aux auditeurs que on ressort finalement de votre livre avec une idée, alors peut-être un peu noire à mon goût, mais en tout cas, ce qui n'est pas noir, ce qui est tout à fait décrit, d'une part, c'est l'attitude de la justice, et d'autre part, la dénaturation des mouvements populaires, vous le dites, et on l'a vraiment vu de près, à la fois au moment des Gilets jaunes, et encore tout récemment, les Black Blocs, des sortes de milices qui s'appellent Antifa, qui s'appellent Black Bloc, peu importe, qui dénaturent les manifs populaires, on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, qui se sont laissés, qui n'ont pas voulu de chef, alors c'était peut-être un petit peu leur faute aussi, bon, ils n'ont pas voulu de chef, moralité, la gauche est venue les prendre en tenaille, et puis ça a été fini, et ils ont dénaturé en faisant des violences, et on l'a vu également avec ce qui s'est passé à Lyon tout récemment, hein, en 2026, ils dénaturent cette fois non pas une manifestation, mais l'opposition à cette manifestation en faisant un crime à la sortie dont a été victime le pauvre Quentin. Donc ils ont ces armes-là et puis ils ont aussi comme arme les médias, la publicité, ça vous le décrivez très bien aussi, qui agitent en fait les médias, elles agitent comme une clochette hein, finalement, qui annonce le pestiféré, elles lancent les mots tout de suite, c'est raciste, antisémite, sexiste, et puis finalement populiste, et puis finalement fasciste, et puis pourquoi pas nazi. On insiste véritablement à ça en ce moment, et vous parlez aussi du fait d'avoir choisi, alors on peut pas revenir sur les Jeux Olympiques parce qu'il nous faudrait une heure pour en parler, mais vous parlez de la fameuse chanteuse Iseut, hein, donc dont les proportions sont, enfin, voilà, à côté je me sens très mince, donc j'aime beaucoup, mais qui est débordante, on va dire, et qui surtout très hostile à la France, hein, qui a dit je vais en Belgique, bon bah très bien qu'elle aille en Belgique, que ça ne nous fait fait ni chaud ni froid, mais des gens comme ça qui sont mis en avant finalement, ou des rappeurs qui sont mis en avant dans leur haine de la France, ça c'est aussi une arme très très puissante. Et c'est, vous dites ça, enfin vous décrivez, voilà, à mon sens d'une manière un peu noire, peut-être propre aux gens justement qui sont parisiens par rapport au reste de la France, mais ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, c'est très 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 bien décrit. Donc j'ai un message d'auditeur, donc je vais le lire, surtout que c'est quelqu'un qui est habitué à l'émission, qui s'est pas laissé larguer quand je suis passée du soir au midi. Bonjour, si les Américains parlaient français, ils se comprendraient peut-être mieux qu'avec cette langue de fou. Oh, comme disait très justement Voltaire, et aurait un peu de sens des nuances, ce qui manque de toute évidence. Donc c'est en relation avec ce que j'ai dit dans l'introduction de cette émission. Charles, donc je pense qu'elle parle du Charles III, donc du roi de Grande-Bretagne, ferait mieux de s'intéresser à son bloody country, grand fouteur de bazar sur toute la planète depuis un millénaire et qui finit en califat. Oh là là. Les auditeurs, je les remarque, parce qu'il y en a que je connais depuis pas mal, ils sont de plus en plus fâchés quand même, hein. ça c'est vrai. Notons aussi l'immense culture de Trump qui a cité à propos de la langue de Goethe et de Goebbels le héros Otto du poisson nommé Vanda. Alors moi, je ne connais même pas cette culture, donc. Une sorte de psychopathe grand teint qui se présente comme ancien tueur de la CIA et grand amateur de Nietzsche. Voilà, bonne journée. Merci, cher auditeur, de nous suivre dans cette émission qui est désormais à 14h. Je voudrais en profiter pour dire à nos auditeurs que désormais, cette émission, c'est le cas depuis la semaine dernière, depuis le mois dernier, cette émission donc repasse le samedi de 19h à 21h pour la partie du mercredi et le samedi de 21h30 à 21h30 pour la deuxième partie, celle du jeudi. Voilà, c'est très compliqué. Donc je vais remercier Philippe Pichot-Bravard d'être venu dans ce lieu qu'il connaît bien, mais d'être venu cette fois comme invité.
Merci beaucoup.
Je remercie Diane de Bourguédon d'avoir interrompu son stage, le stage de Siki, mais qui la tenait éloignée de Paris, en voulant bien nous faire une intervention sur son livre qui vient de sortir, donc Les Indésirables, Prolophobie, paru chez Fayard, et L'homme transformé, but des révolutions totalitaires, de Philippe Pichot-Bravard, chez Via Romana. Merci beaucoup. Au mois prochain.
Vous venez d'entendre La Tête hors de l'eau, dirigée par Catherine Rouvier, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 29 avril 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.